Merci d'être à l'écoute de RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 21h.
Mathis Limano.
Dans votre journal, la Russie cherche-t-elle à gagner du temps? Des négociateurs américains sont en route pour Moscou, alors que la réponse de Vladimir Poutine à un accord de cessez-le-feu de 30 jours se fait attendre. Le président russe a rendu visite aux troupes dans la région de Koursk, où l'Ukraine continue de se replier. À suivre, les réactions dans le monde à la guerre commerciale de Donald Trump. Les droits de douane sur l'acier et l'aluminium entrant aux États-Unis en vigueur depuis la nuit dernière. Le Canada, la Chine et l'Union européenne répliquent, mais d'autres préfèrent temporiser. Donald Trump et ses menaces jugées imprudentes par Téhéran, menaces d'opérations militaires contre l'Iran sans accord trouvé sur le nucléaire iranien. Et puis Northvolt, c'est fini. Le pionnier européen des batteries électriques dépose le bilan. Mais avant de développer ces titres, on part à Lille, au stade Pierre-Mauroy. Les Lillois sortis de la Ligue des Champions par Dortmund. Thomas de Saint-Léger, ils ne verront donc pas les quarts de finale.
Oui Mathis, on va parler de malédiction des huitièmes de finale. Troisième fois que les Lillois échouent à ce stade de la compétition. Et pourtant les Dogs avaient pris le match par le bon bout avec dès la cinquième minute l'ouverture du score de Jonathan David. But qui qualifie à ce moment-là les Lillois. But qui va aussi déclencher la révolte des jaunes et noirs de Dortmund avec des vagues d'attaques, d'occasions, des parades de Lucas Chevalier, le gardien du LOSC. Et à la mi-temps, le score est toujours de 1-0. C'est un petit miracle, mais ça ne va pas durer. Au retour des vestiaires, Serou Guirassy, le Guinéen, obtient un pénalty transformé par Emre Can, un partout. Et à la 64e minute, c'est Maximilian Beyer qui crucifie d'une frappe en lucarne les Lillois. Il offre une qualification finalement méritée à ces Allemands du Borussia, supérieur dans l'intensité, supérieur techniquement. Dortmund, finaliste sortant de la Ligue des Champions, poursuit donc sa route. Prochaine obstacle pour le Borussia, le FC Barcelone en quart de finale.
Merci Thomas de Saint-Léger en direct de Pierre-Mauroy à Lille. Les autres rencontres de la soirée viennent tout juste de débuter. Arsenal, PSV, Aston Villa, Bruges et Atlético Real Madrid. La balle est désormais dans le camp de Vladimir Poutine après qu'Américains et Ukrainiens ont annoncé un accord de cessez-le-feu d'une durée de 30 jours et le rétablissement par Washington de la fourniture d'armes et de renseignements à Kiev. Les yeux sont donc maintenant rivés vers le Kremlin. Donald Trump a par ailleurs annoncé l'envoi immédiat de négociateurs en Russie et en Ukraine. Même si cet accord suscite l'espoir après plus de 3 ans de guerre, on ne croit pas Vladimir Poutine quand il assure vouloir la paix. Pour le député ukrainien d'opposition Oleksiy Ontcharenko, les masques devraient désormais tomber.
Je me félicite de cet accord et je pense qu'il s'agit d'une très bonne chose. Tout d'abord parce que le soutien militaire à l'Ukraine est rétabli, ainsi que l'échange de renseignements, ce qui est très important pour nous. Et cela montre une fois de plus que les États-Unis sont aux côtés de l'Ukraine, ce qui est aussi très important. En ce qui concerne le cessez-le-feu, je pense qu'il s'agit d'une bonne étape. L'Ukraine en a besoin. Nous n'accepterons pas de capituler, nous n'allons pas le faire, mais nous avons besoin de la paix dès que possible. C'est donc un pas dans la bonne direction. Désormais, nous allons voir le vrai visage de Poutine, car avant ça, il était heureux de voir des divisions entre l'Europe et les États-Unis, l'Ukraine et les États-Unis. Mais maintenant que nous avons une position commune, nous allons connaître sa véritable position. Je pense que Poutine ne veut pas la paix et qu'il va essayer de gagner du temps ou trouver quelque chose d'autre. Selon moi, les Américains doivent se préparer à faire pression sur Poutine pour qu'il accepte la paix.
Le député ukrainien Oleksiy Ontcharenko avec Romain Lemaresquier. Sentiment partagé du côté de la présidence ukrainienne. Volodymyr Zelensky dit ne pas faire confiance à Vladimir Poutine. Donald Trump espère, lui, que le président russe acceptera la proposition d'un cessez-le-feu de 30 jours. Pendant ce temps, la Russie continue de mettre la pression sur le champ de bataille, notamment dans la région de Koursk, en partie contrôlée par l'Ukraine. Moscou revendique avoir repris 5 localités et fait prisonnier 430 soldats ukrainiens. Nous allons gagner la bataille financière contre l'Union européenne. Les mots de Donald Trump alors que l'UE réplique aux droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium. De nombreux produits en provenance des États-Unis allant des bateaux aux motos en passant par le bourbon américain vont être taxés à partir du 1er avril. Au Royaume-Uni, pas de représailles, Emeline Vint. Londres s'est contenté de faire part de sa déception.
Le gouvernement britannique est, je cite, « évidemment déçu de l'imposition de droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium, mais préfère garder la tête froide dans son approche et ne pas imposer de mesures immédiates en réplique, comme l'a fait l'Union européenne ». James Murray, ministre en charge de la taxation, estime que les deux situations ne sont pas comparables.
Nous sommes dans une situation bien différente de l'Union européenne, du fait de la visite du Premier ministre Keir Starmer le mois dernier à Washington. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont entamé des négociations rapides pour un accord économique et ces droits de douane mondiaux interviennent en plein milieu de ces discussions. Nous ne voulons pas que cela perturbe notre travail. Nous pensons qu'il faut le continuer avec pragmatisme, sans réagir de manière impulsive, pour garantir un accord qui serait dans l'intérêt des entreprises britanniques.
En clair, ne pas froisser Washington avant la fin des négociations sur un potentiel accord commercial. Cependant, le secteur de l'acier britannique traverse déjà une période difficile, marquée par l'augmentation des coûts de production. Les syndicats s'inquiètent fortement de ces droits de douane et exigent une réponse de la part du gouvernement, certains réclamant de devenir une infrastructure nationale critique qui oblige les entreprises publiques à acheter de l'acier britannique. Emeline Van Londres, RFI.
Et à l'image de l'Union européenne, la Chine et le Canada ont annoncé des représailles à ces droits de douane. Ottawa, premier fournisseur des États-Unis en acier et aluminium, parle de nouvelles taxes injustifiées et déraisonnables. C'est dans ce climat tendu que Marco Rubio est arrivé au Canada. Le secrétaire d'État américain vient participer aux discussions du G7. Il est le premier haut responsable de l'administration Trump à fouler le sol canadien depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.
RFI, la radio du monde.
RFI, 23h37 à Téhéran. Le nucléaire iranien au cœur d'échanges ce vendredi entre responsables russes, chinois et iraniens. Le tout dans un contexte de pression maximale imposée par Donald Trump. Le président américain a écrit une lettre au guide suprême iranien lui demandant de parvenir à un accord sur le nucléaire. La Chine et la Russie ont eu une autre approche, Théoronodon.
Comme Washington, Moscou et Pékin ne veulent pas avoir de bombes nucléaires entre les mains de Téhéran. Et les menaces militaires de Donald Trump à l'encontre de l'Iran inquiètent Chinois et Russes, d'où cette rencontre, selon le chercheur spécialiste des relations russo-iraniennes, Clément Terme.
La République islamique, si elle le décide, pourrait, dans les prochains mois, prendre une décision politique d'acquérir des systèmes d'armes nucléaires. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et la Russie et la Chine veulent s'assurer que le calcul des décideurs à Téhéran ne change pas avec l'instauration de la pression maximale par l'administration Trump.
Pour convaincre les Iraniens de ne pas développer d'armes nucléaires, Russes et Chinois misent sur des pressions tout autres que militaires, Clément Terme.
La Chine et la Russie, elles, peuvent, sur le plan économique, apporter des contreparties, notamment la Chine, qui achète du pétrole à l'Iran, et la Russie peut faire pression sur les questions sécuritaires. La République islamique d'Iran attend la livraison, par exemple, de systèmes antimissiles. Il y a des coopérations également dans des domaines sensibles, comme le nucléaire civil, le domaine spatial, qui sont très importants pour la survie du régime.
Contrairement aux États-Unis, Pékin et Moscou sont toujours, eux, signataires de l'accord sur l'encadrement du programme nucléaire iranien, signé il y a 10 ans.
Théo Renaudon. En Europe, fin de partie pour Northvolt. Plombé par ses dettes, le pionnier du secteur des batteries électriques a déposé le bilan. De quoi doucher les espoirs européens de concurrencer les entreprises asiatiques, Agnieszka Kumor.
Face à la déferlante des fabricants chinois de batteries, l'Europe est clairement à la traîne. Elle ne représente que 3% de la production mondiale de batteries. Si Northvolt a ouvert la voie, qui donc pour lui succéder ? En 2020, Stellantis et Total Energy ont créé Automotive Cells Company, ACC, qui a connu une ascension fulgurante. En 2023, le fabricant a ouvert sa première gigafactory dans le nord de la France et envisageait pas moins de 9 blocs de production répartis entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Un investissement total de plus de 7 milliards d'euros. Mais depuis, les projets allemands et italiens ont été gelés. Face au ralentissement du marché de l'automobile électrique, ACC a été contraint de réduire la voilure. Un plan de départ volontaire pour une partie du personnel a été acté. Dans ce contexte, la Commission européenne a présenté la semaine dernière un plan d'action à moyen terme avec notamment des subventions directes aux fabricants européens.
Agnieszka Kumor, service éco de RFI. Ce journal touche à sa fin. À Paris, il est 21h10, 20h10 en temps universel.